création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. 1939-1945, en Europe libérée, les années et mois qui suivent sont marqués pour les uns par une espérance, pour les autres par l'impossibilité de mettre des mots sur ce qui avait été vécu. Cet après la Shoah fait l'objet d'une exposition sous le nom « Rescapés, réfugiés, survivants 1944-1947 » au Mémorial de la Shoah. Cet après la Shoah existe ce soir dans la voix de Marie-Claude Vaillant-Couturier, arrêtée par la police de Vichy, livrée à la Gestapo et déportée à Auschwitz puis Ravensbrück. Elle comparaît lors du procès de Nuremberg le 28 janvier 1946. C'est en août 2006 que Dominique Missika a travaillé sur ce procès. François Mitterrand avait, en décembre 2011, ainsi qualifié son travail. Vous avez diffusé une nouvelle manière de faire l'histoire, celle où l'acceptation du réel, de sa cruauté aussi, a toute sa place. À coup d'extraits de procès historiques, d'images nues, de récits non coupés, sans commentaires ni retouches. Le procès de Nuremberg, Marie-Claude Vaillant-Couturier, par Dominique Missika. Réalisation Pierrette Perronneau, première diffusion le 4 août 2006.
Quiet, please. Take your seats.
Hello, recording. Quiet, please. Take your seats. Quiet.
Les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et l'Union des républiques socialistes soviétiques. Agissant par les sous-signés Robert Jackson, François de Menton, Hartley Shawcross et R.A. Rudenko, accusent par les présentes, pour les motifs exposés ci-après, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Erich Räder, Baldur von Schirach, Fritz Saukel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Albert Speer, Constantin von Neurath et Hans Fritsch de s'être rendus coupables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité définis dans le statut du tribunal ainsi que d'un plan concerté ou complot en vue de commettre ces crimes.
20 novembre 1945, 1er octobre 1946, le procès de Nuremberg.
Mais voulez-vous d'abord nous dire, monsieur le professeur, quelle est l'exacte signification du mot génocide ?
Raphaël Lemkin.
Et pourquoi il était nécessaire de créer ce mot ?
Le mot génocide signifie le crime de détruire des peuples, des races, des religions. Ce nouveau mot est composé du grec « genos », race, nation, tribu, groupement humain, et du latin « sidere », tuer. Donc, le génocide est un nouveau mot parallèle aux mots comme « homicide », « infanticide ». C'est un hybride comme le mot « criminologie ». Cette combinaison d'un mot grec et d'un mot latin symbolise les deux anciennes civilisations grecque et latine qui sont à l'origine de notre civilisation moderne. Dans la formation de ce mot, je me suis inspiré par un discours radiophonique de M. Winston Churchill, d'août 1941, qui s'est référé à la boucherie dont se sont rendus coupables les nazis au cours de la guerre. Churchill disait « Nous nous trouvons en présence d'un crime sans nom ». Il nous aurait fallu ce mot, même avant Hitler, pour dénommer la destruction des groupements humains et qui sont choisis délibérément pour ce crime par les critères de la race, de la religion, de la nationalité. Les mots « extermination » ou « meurtre en masse » peuvent s'appliquer à tout groupement humain et ne signifient pas la sélection des victimes. De plus, « meurtre » ou extermination n'englobe pas la destruction biologique comme la stérilisation, l'avortement ou la destruction culturel ou spirituel du groupement victime. Les exemples de génocide les plus connus sont la destruction de Carthage, la persécution des chrétiens sous l'Empire de Rome, la destruction du groupement religieux au cours des guerres islamiques et aussi la destruction des Maures en Espagne, le massacre des Albigeois et des Valdenois, la destruction des Maronites, des Slaves, des Arméniens et des Grecs sous l'Empire ottoman, la destruction des Hérero en Afrique à la fin du XIXe siècle, le pogrom contre les Juifs en Russie tsariste, en Roumanie et sous les nazis. Citons aussi la destruction presque totale des Tziganes par Hitler et de plusieurs millions de Slaves. Tout récemment, le gouvernement du Pakistan a accusé les Indes du crime de génocide. Donc on voit que ces crimes se répètent malheureusement à travers l'histoire avec la régularité du quasi-loi biologique. Donc le génocide est pour la communauté internationale le même fléau que l'homicide est pour la société nationale.
Y a-t-il, monsieur le professeur, une différence essentielle entre les techniques, si l'on peut dire, du crime de génocide et du crime d'homicide?
Naturellement. Et tous les cas que j'ai cités nous démontrent une technique spéciale. Le criminel coupable de génocide attaque normalement les trois éléments essentiels de la vie d'un groupement humain, notamment l'élément physique, c'est-à-dire la vie, l'élément biologique, c'est-à-dire la procréation, et l'élément spirituel, notamment la religion et la culture. L'élément physique est attaqué par les assassinats et les mutilations, l'élément biologique par les stérilisations, les avortements forcés, le vol d'enfants. Ces attaques contre la continuité du groupe agissent comme une bombe à retardement. Quelle différence y a-t-il si un groupement est détruit immédiatement ou au cours d'une génération? En ce qui concerne la culture et la religion, celles-ci peuvent être détruites ou minées par de tels actes comme la destruction ou l'exil des chefs spirituels du groupe, comme les intellectuels, le clergé, ou par la destruction en masse des objets des cultes ou d'une valeur culturelle qui sont l'inspiration ou l'expression de la vie religieuse ou culturelle du groupement. Paul Valéry a dit déjà, après la Première Guerre, « Maintenant, nous savons que les civilisations sont mortelles. » Donc, nous distinguons trois catégories de génocide: génocide physique, biologique ou culturel. Aucune n'est moins importante que les autres. Normalement, le génocide commence par la destruction culturelle et religieuse, puis s'ensuit la destruction physique et biologique. Pour faire œuvre utile, il faut déjà punir le génocide culturel pour prévenir les autres formes de destruction. Si on punit le fait que le livre soit brûlé, on prévient que le corps soit brûlé. Il y a une série de mesures pour combattre ce crime odieux. Plusieurs ont été prévues dans le projet, plusieurs ont été projetées par les délégations. L'ensemble nous permet d'envisager quatre moyens pour la prévention et la punition de ce crime. Premièrement, les Nations Unies pourraient invoquer les sanctions contre le gouvernement qui serait coupable de ce crime. Ces sanctions sont prévues dans la charte de l'ONU. Il faut les utiliser. N'oublions pas que c'est la fonction qui crée l'organe. À vraiment parler, dans un cas si atroce comme le génocide, l'invocation des sanctions est si naturelle et il serait très difficile pour un État quelconque d'opposer son veto à ces sanctions. Deuxièmement, puisque le crime de génocide n'est pas commis seulement par le gouvernant, mais surtout par des individus et des organisations fanatiques qui pourraient agir dans une démocratie, même à l'insu de leur gouvernement, on prévoit aussi l'extradition, le déni des droits d'asile et surtout le droit de chaque État de punir les criminels qui se réfugient sur leur territoire. Troisièmement, la violation des termes de la Convention sur le crime de génocide serait soumise au tribunal de la Haye. Quatrièmement, dès que les conditions de la vie internationale le permettront, on pourrait établir un tribunal pénal international pour juger les criminels dans les cas les plus graves.
La définition donnée à Nuremberg est extrêmement compliquée, peu lisible, et on peut y trouver ce qu'on veut. Et d'ailleurs, la jurisprudence française de la Cour de cassation qui interprète la définition donnée à Nuremberg l'a élargie, puisque elle a compris à l'intérieur des victimes des crimes contre l'humanité ceux qui s'opposent, même par la force, les armes, à toute tentative d'oppression. Je crois que ce n'était pas dans l'idée des promoteurs de la notion de crime contre l'humanité que d'inclure parmi les victimes éventuelles de ces crimes contre l'humanité ceux qui combattaient les oppresseurs. Le crime contre l'humanité, ou la notion de crime contre l'humanité, était destinée en fait à punir ceux qui avaient commis des crimes contre des masses humaines, contre des êtres humains, mais en nombre relativement important, les populations civiles qui n'avaient pas part au conflit et à qui on appliquait un critère. Bon, le critère qui s'était appliqué pour les Juifs, c'était d'avoir deux grands-parents de religion juive. Mais ça aurait pu être d'avoir un grand-parent de religion juive. Ça aurait pu être, on aurait pu poursuivre ceux qui étaient nés chrétiens, ou on aurait pu poursuivre ceux qui étaient bruns, ou ceux, n'importe quel critère, de l'appliquer. Ces êtres humains ne peuvent pas se dégager de ces critères une fois qu'ils les ont, et on les élimine au nom de telle ou telle idéologie. Ils sont éliminés de ou persécutés et ils sont victimes donc d'un crime parce qu'ils sont nés quelque chose.
À Nuremberg, la France accuse. Par la voix de M. de Menton, pour toutes les nations martyres de l'Ouest européen, la France accuse.
Monsieur le Président, messieurs les juges, la conscience des peuples, hier, asservie et torturée dans leur âme et dans leur chair, vous demande de juger et de condamner la plus monstrueuse entreprise de domination et de barbarie de tous les temps.
L'écho de ces paroles touchera les juges. Touchera-t-il ceux-là sur leur banc? Une femme maintenant va parler, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui rappellera les souvenirs d'Auschwitz.
Il arrivait en général sur un transport de 1000 à 1500, il en entrait rarement plus de 250, et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé, entre 20 et 30 ans, qu'on envoyait au bloc des expériences. Pour rendre l'accueil plus agréable, à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 1944, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouait pendant la sélection, à l'arrivée des trains, des airs gais comme La Veuve Joyeuse, La Barcarolle des Comtes d'Hoffmann, etc. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans dans les fournaises.
À la barre maintenant, voici le docteur Jean Vette, sorti de Mauthausen et qui fut le témoin des horreurs que systématisa la science nazie.
Voilà, tel est elle.
La population civile pouvait-elle connaître et connaissait-elle la condition des internés?
Elle pouvait la connaître parce que à Mauthausen, il y avait une route qui était près de la carrière. On voyait tout ce qui s'y passait. En passant sur cette route, on pouvait tout voir. Et d'autre part, Mauthausen est situé sur une colline. Il y avait le crématoire qui jetait une flamme d'un mètre. Si on voit toutes les nuits une flamme d'un mètre sortir d'une cheminée, on est certainement curieux de savoir ce que c'est. Et personne ne pouvait ignorer que c'était la flamme du crématoire.
Autre témoin, François Bois, un Espagnol rescapé lui aussi de Mauthausen.
Reconnaissez-vous parmi les accusés quelques-uns des visiteurs du camp de Mauthausen que vous avez vus lorsque vous y étiez interné?
Sperre penche la tête vers ses complices. Il ne réagit pas, tout se tait. On croyait sur ces bancs que les morts étaient bien morts, mais les morts sont présents et ils parlent.
Beaucoup de camarades, en particulier le physicien Jacques Solomon, qui était le gendre de Langevin, et beaucoup d'autres, et Daniel Casanova, avec lequel je militais depuis ma jeunesse. Et nous avons été arrêtés par la police de Pétain et livrés à la Gestapo et considérés comme otages. Personne de nous n'a été jugé. Nos camarades ont été maltraités et torturés pour certains, à la fois par la police française et ensuite par la Gestapo. Tous les hommes ont été fusillés au Mont Valérien en plusieurs paquets entre le mois de mai et le mois de septembre, et toutes les femmes ont été envoyées au camp de rassemblement d'otages de Romainville et ensuite déportée à Auschwitz.
Hélène Solomon
était la femme de Politzer.
Elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Solomon est la femme du physicien Solomon.
C'est la fille du professeur Langevin.
Oui.
Daniel Casanova.
Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes, c'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers.
Combien êtes-vous revenu sur 230?
49. Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz.
One moment.
Moins vite, s'il vous plaît.
When you said only 49 came back, did you mean that only 49 arrived at Auschwitz?
No, only 49 came back to France.
Oh, go on. Yes.
Il y avait également des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève du lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le tribunal militaire allemand. Elles s'appellent Marie Alonso et Marie-Thérèse Fleury. Elles sont mortes à Auschwitz.
Nous sommes installés comme pour un long voyage, les amis côte à côte. J'étais avec Yvonne Blech, Von Picard, viva. Madame Van der Lee, qui posait soigneusement son chapeau noir sur sa valise, dépliait sa couverture. Il faisait froid. Le train ne bougeait pas. Nous avons tiré de nos sacs papier et crayons pour écrire des billets. Que la personne qui trouvera ceci ait la gentillesse d'avertir nos familles que sa femme, sa fille, sa sœur, Thérèse, Jeanne, Martine est déportée en Allemagne. Nous avons bon moral. Viva terminait toujours le sien par « Je reviendrai », souligné. Beaucoup de ces messages ont été ramassés par des cheminots de Compiègne qui les ont envoyés. Le train s'est mis en marche. Mercredi, 27 janvier 1943. Les wagons se sont ouverts. Des cris, des hurlements, des chiens, des ordres incompréhensibles, des SS, des mitrailleuses, des cliquetis d'armes. Un bord de voie qui n'était pas un quai. Le froid nous a transpercés. Où étions-nous ? Nous ne l'avons su que 2 mois plus tard. 150 sont mortes, sans savoir qu'elles étaient à Auschwitz.
Si l'on arrivait bientôt, ils nous ont répondu, si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'arriver. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Ça se trouve dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Puis on nous a conduits, en passant le porche, nous sentions tellement qu'il y avait peu de chance d'en ressortir, car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Ensuite, on nous a mis dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Tout ça se passait en présence des SS, hommes et femmes, bien que les femmes soient nues. Après, on nous a remis des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette pareille. Comme ces opérations avait pris plusieurs heures, nous voyions des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s'est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. À ce moment-là, les commandos de travail d'hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosse ou à coups de botte chaque fois qu'ils s'effacent. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables et le lendemain matin, nous avons appris par les...
You're going too fast.
Sorry.
Les SS nous ont fait mettre en rang. Marcher était pénible. Le sol était recouvert de glace. Nous étions engourdis. Nos valises étaient lourdes. À mi-chemin, nous avons rencontré des femmes enrayées, une longue colonne. Les capots leur ont commandé de nous laisser le passage. Elles étaient livides jusqu'au violet. Au détour du chemin, ont surgi les barbelés et les miradors. Barbelés blancs comme en givre, miradors noirs sur un fond de neige. C'est alors qu'en tête, elles ont entonné la Marseillaise.
Cette Marseillaise, nous l'avons chantée en rentrant dans le camp, sans y avoir réfléchi avant, mais nous avions un petit peu le sentiment que nous avions à la santé quand nous chantions la Marseillaise, quand les SS venaient chercher les hommes pour les fusiller au Mont-Valérien. Mais nous avons seulement su après l'effet que ça avait fait aux détenus à l'intérieur du camp. Et il y en a une qui l'a écrit et je crois que je ne saurais pas dire aussi bien qu'elle ce qu'elle a ressenti, alors je préfère le lire. Un matin, à l'entrée du camp, paraissent 300 nouvelles venues. De quel pays arrivent-elles ? Nous guettons attentives. Soudain, notre respiration s'arrête, nos poings se serrent, nos yeux brillent. Puissamment, au milieu de notre camp de mort, s'élève la Marseillaise. Pour la première fois depuis longtemps, nous respirons profondément, avec un goût de liberté. Des images et des pensées se pressent dans ma tête. Je vois l'armée infinie et décidée. Les partisans, les combattants, les martyrisés, les blessés qui tombent invaincus. Des yeux hardis me regardent, des mains se tendent, et je me rends compte subitement que le monde ne finit pas avec les barbelés de notre camp, ni avec les flammes du crématoire. La vie et le monde existent. La lutte, la souffrance, l'espérance subsistent au fond des rues, dans les bunkers, dans les ponts qui sautent, dans les trains qui déraillent, dans les mains qui s'étreignent. Par exemple, que avec une amie qui est morte récemment, un jour à l'appel, c'était une femme très cultivée, et elle nous parlait de peinture. Et pendant un certain temps, en l'écoutant, on oubliait l'horreur qui nous entourait. Un poème, c'était quelquefois aussi important qu'un morceau de pain. Mais enfin, ça comptait aussi. L'aide matérielle. Évidemment, ce qui était terrible, c'est que on n'en avait jamais assez pour tout le monde. Et quand on a 10 cachets d'aspirine et qu'il en faudrait 3 fois plus, c'est un drame de penser que celui qu'on donne à une, on ne le donne pas à l'autre. Et en principe, moi, j'essayais toujours pour les jeunes, parce que je me disais que celles qui, comme moi, avaient déjà plus de 30 ans, elles avaient une partie de vie derrière elles, et qu'il y avait des filles parmi nous qui n'avaient pratiquement rien eu de la vie que la lutte dans la résistance, et je pensais qu'il fallait essayer qu'elles sortent. Parmi les choses les plus horribles de mes souvenirs, il y a les convois de Hongrie qui, en juin 44, arrivaient nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et je me souviens d'une fois où j'étais en train de les regarder avec une amie, une doctoresse tchèque, et on voyait les trains qui arrivaient, les SS qui faisaient ouvrir les portes, qui faisaient sortir à coups de crosse et avec leurs chiens policiers les malheureux qui avaient été souvent plusieurs jours enfermés dans des wagons sans pouvoir boire ni manger et qui étaient à gare. On voyait le triage d'un côté, les mères et les enfants, les vieillards, et de l'autre, ceux qui étaient destinés à entrer dans le camp, entre 18 et 40 ans, à condition d'avoir l'air d'être en bonne santé et de pouvoir travailler. Et moins d'une heure après, on voyait les flammes et la fumée qui sortaient des fours crématoires. Et je me rappelle que je disais à Marouchka, mais si nous sortons, si quelqu'un sort vivant de ce camp et qu'on raconte ça, personne ne nous croira. Parce que moi qui suis là déjà depuis plus d'un an et qui ai vu ces choses à plusieurs reprises, tout à l'heure, je ne croyais pas mes propres yeux. J'avais du mal à réaliser, même moi, que ces femmes et ces enfants, ces vieillards, c'était cette fumée, ces flammes.
Êtes-vous témoin direct?
Oui.
De la sélection à l'arrivée des convois?
Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils avaient...
En quoi a consisté l'un des appels du début du mois de février?
Il y a eu le 5 février ce qu'on appelait un appel général.
Et de quelle année?
1943. À 3h30, tout le camp a été...
Le matin?
Oui. Le matin. Tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude, l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine devant le camp jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une, et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu en passant pour la faire courir. Celles qui ne pouvaient pas courir, soit parce qu'elles étaient trop vieilles ou trop malades, étaient happées par un crochet et conduites au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes sans faire de distinction. Elles sont restées entassées ainsi. Au moment, vers la fin de l'automne, on faisait dans les revirs de grandes sélections parce que le système semblait être le suivant. Je dis ça parce que sur le temps que j'ai passé à Auschwitz, j'ai pu en faire la constatation, et d'autres qui sont restés encore plus longtemps que moi ont fait la même constatation. Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes qu'on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours, mais les plus robustes qui arrivaient à tenir 6 mois, au bout de ce temps, étaient si épuisées qu'elles entraient à leur tour au revir.
Quand je suis arrivée à Ravensbrück, j'ai d'abord participé avec toutes les autres à la protection de ce qu'on appelait les lapins, les Polonaises à qui on avait fait des opérations pour étudier les effets microbes ou d'infections et que les SS voulaient utiliser comme cobayes et ensuite liquider. Ces opérations, je n'étais pas à Ravensbrück au moment où elles ont commencé. Par contre, j'étais à Auschwitz quand on faisait des sélections pour les stérilisations. Je me souviens, c'est un de mes souvenirs d'horreur parmi de nombreux autres, de la longue file d'attente des juifs grecs devant le pavillon où on faisait des rayons pour la stérilisation des hommes. Je revois cette file d'hommes dont je ne sais pas s'ils savaient exactement de quoi ils... ce qui les attendait, parce que comme ils étaient grecs, je ne pouvais pas leur parler. Mais moi, je le savais. Et enfin, nous le savions au Revir, que c'était là que ça se passait. Et c'était une de ces nombreuses formes d'essais de d'aviler l'homme, de se servir d'hommes comme de cobayes.
Qui a été envoyé en transport à Barthes? Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également au bunker, au Strafblock et au bunker, des détenus ayant refusé de travailler pour les usines de guerre.
Vous parlez là des prisons du camp.
Les prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l'ai visitée, c'était une prison, avec comme une prison civile, une vraie prison.
Combien y a-t-il eu de femmes en tout?
Au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également dans le camp des exécutions. On appelait les numéro à l'appel le matin, puis elles partaient à la commandanture et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l'Effektenkammer où on gardait les habits des détenus et au bout d'un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp.
Le système de détention était le même qu'à Auschwitz?
Non. À Auschwitz, visiblement, c'était un camp d'extrême. J'ai pas entendu. Quelqu'un m'a posé une question? À Auschwitz, visiblement, le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On était battu pour rien du tout. Il suffisait d'être debout du matin au soir, mais le fait qu'on porte 1 brique ou 10 briques, on se rendait bien compte que le travail, on utilisait le matériel humain que comme des esclaves, mais...
Of the witnesses' evidence as to Ravensbrück seemed to be very much like, if not the same, as at Auschwitz. And wouldn't it be possible to now, after hearing this amount of detail, to deal with the matter rather more generally, unless there is some substantial difference between Ravensbrück and Auschwitz?
Je crois qu'il y a une différence qui nous a été exposée par le témoin et qui est la suivante. C'est qu'à Auschwitz, les internés étaient exterminés purement et simplement. Il ne s'agissait que d'un camp d'extermination, tandis qu'à Ravensbrück, ils étaient internés pour travailler, étaient exténués de travail, jusqu'à ce qu'ils meurent.
D'ailleurs, if there are other distinctions between the two, no doubt you will lead the witness. Ask the witness about those other distinctions.
Je n'y manquerai pas, monsieur le président. Pourriez-vous indiquer au tribunal dans quel état se trouvait le camp des hommes au moment de la libération et combien il restait de survivants?
Lorsque les Allemands sont partis, ils ont laissé 2000 malades femmes et un certain nombre de volontaires, dont moi-même, pour les soigner. Ils nous ont laissés sans eau et sans lumière. Heureusement, les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu'au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible. Ils étaient depuis 5 jours sans eau. Il y avait 800 malades graves, 3 médecins et 7 infirmiers qui n'arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l'armée rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner de la nourriture et des soins. Mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français, il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp et il n'y en a que 150 qui ont pu regagner la France. Pour les autres, ils étaient trop tard malgré les soins.
Chaque camp du système nazi est un camp singulier, qui a ses particularités. Et si on peut faire une différence, on peut faire une différence très claire entre camp d'extermination par le travail sans chambre à gaz et camp avec chambre à gaz. C'est la seule vraie différence.
Georges Semprin.
Les camps à chambre à gaz, massives, parce qu'on a trouvé des chambres à gaz artisanales, si on peut permettre l'expression absurde et peut-être presque irritante, des chambres à gaz pour comme ça dans certains camps. Mais l'invention de la chambre à gaz avec ce fonctionnement industriel massif, nuit et jour, avec les crématoires attenants, comme dans le complexe Auschwitz-Birkenau, ont été inventés pour exterminer le peuple juif. Et la vraie différence est donc entre les camps d'extermination des juifs, les camps avec chambre à gaz et les autres camps. À partir de là, tous les camps sont des camps d'extermination. Même les camps les plus « doux », entre guillemets, de travail, sont des camps d'extermination. Sauf peut-être l'exception des camps qui sont tellement reliés au système de production d'armement nazi que la main-d'œuvre doit être exterminée ou peut être exterminée, mais il faut aussi la faire travailler pour qu'elle produise la plus-value de l'armement. Donc il y a cette contradiction-là. Et Buchenwald est un camp précisément qui est intégré dans le système de production d'armes automatiques des usines Gustloff, et c'est là d'où vient la différence. La première chose qu'on découvre, c'est l'annulation de toute référence au monde du dehors et de toute hiérarchie bonne ou mauvaise du monde du dehors, et l'absurdité, c'est-à-dire l'arbitraire. L'arbitraire, la volonté absolue de déstabiliser, de couper les références, de faire, et ça je l'ai senti de façon très nette et très claire, presque de façon dérisoire, lors de la première, le premier contact avec la chose la plus étonnante, c'était ce qu'on appelle la désinfection. C'est-à-dire on est envoyé par groupe de 100 ou de 200 dans des salles de douche, et puis de désinfection dans une baignoire avec un liquide verdâtre qui est destiné à vous désinfecter comme si vous aviez la fièvre aphteuse, n'est-ce pas, comme ça, et on sort de là, et on est rasé, complètement, rasé, tout, il n'y a plus un poil sur le corps. Et au bout de ce chemin, il y avait deux vieux messieurs qui étaient à côté de moi, et qui tout à coup se sont retournés l'un vers l'autre, nus comme ça, non, nus comme des vers, et qui se sont dit, monsieur le sénateur, vous croyez que c'était possible? Et l'autre dit, non, monsieur le ministre, c'était impossible. Et alors là, j'ai compris à quoi était destiné ce système. Et alors, parce qu'aucune référence, ni au ministère, ni au sénateur, ni à rien, n'existe plus. Vous étiez des numéros, nu devant la mort ou nu devant l'arbitraire, c'est ça. C'est ça l'objectif. Ça, c'est le premier contact, très rapide. Il suffit d'avoir un tout petit peu d'idées du monde pour comprendre que c'est ça le but. C'est vous rendre incapable de résister en fonction de références du passé ou de références sociopolitiques qui vous tiennent debout.
Mais par contre, 200 sur 230, nous rentrons à 49 de mon transport. Et nous n'étions plus que 52 au bout de 4 mois. J'ai eu la chance de revenir.
Rufen Sie lediglich Ihre eigenen Beobachtungen vor? Oder handelt es sich um Mitteilungen auch von anderer Seite?
Chaque fois que c'est le cas, je l'ai signalé dans ma déclaration. Je n'ai jamais cité quoi que ce soit qui n'ait été vérifié aux sources et par plusieurs personnes. Mais la majorité de ma déclaration porte sur un témoignage personnel.
Je n'ai plus de questions à poser, Monsieur le Président.
Then the witness may retire.
À la fin de sa déposition, au lieu de ressortir par la porte des témoins qui se trouvent derrière elle, Marie-Claude Vaillant-Couturier s'avance d'un pas décidé vers les accusés. Il y a un moment de stupeur. Elle se plante devant eux et les regarde droit dans les yeux.
C'était... ça me paraissait presque irréel. Et puis en même temps, une des choses qui avait fait que nous avions essayé chacune d'entre nous et chacun d'entre nous de tenir au maximum, c'était l'idée, il n'est pas possible que nous mourions tous comme des rats et que nous soyons le témoin de choses aussi atroce et que le monde l'ignore. Alors, je me disais, nous vivions avec l'idée, il faut que quelqu'un sorte vivant d'ici, il faut que ça se sache, il faut que le monde le sache, ce que c'était que le nazisme et jusqu'où il a pu aller. Le tribunal de Nuremberg, c'était l'occasion suprême de le dire au monde.
Je crois que quand vous êtes passé devant les accusés, ils ont eu peur que vous ne... passer un esclandre ou quelque chose.
Non, je sais que, parce que je l'ai su par les journalistes, qu'il y avait eu une certaine émotion parce que je suis passé très très lentement et qu'ils ont eu peur, effectivement, que je fasse un esclandre, mais telle n'était pas du tout mon intention. Je voulais simplement les regarder, voir de près comment pouvaient être des hommes capables d'avoir accompagné de tels crimes. Et je voulais en même temps qu'ils voient, que eux me voient, et qu'ils sachent que, par mes yeux, c'était les millions de victimes qu'ils avaient exterminées, des hommes, des femmes, des enfants, qui les regardaient et qui les jugeaient. C'est ça que je voulais. C'est pour ça que je suis passé lentement. Quand j'ai eu l'occasion de parler au tribunal de Nuremberg, c'est à ça que je pensais. D'abord, ça me paraissait un miracle d'être, moi, vivante, sortie de 18 mois d'Auschwitz et de 9 mois de Ravensbrück, en face des hauts dignitaires nazis, et en particulier de Göring. Alors, j'ai voulu les regarder. Je suis passé très, très lentement. Et je me disais, avec mes yeux, ce sont des milliers de morts et de mortes qui vous regardent. Et pendant que je témoignais, je me disais, mon Dieu, pourvu que je n'oublie rien, pourvu que je pense à dire tout.
28 janvier 1946, heure du déjeuner. Göring chercha à minimiser le témoignage de la Française en demandant combien de fois elle avait répété son histoire depuis qu'elle avait quitté le camp de concentration. Rosenberg soutint aussi que cette déposition était préparée. Je soulignai à nouveau que cela n'enlevait rien à la validité de ce témoignage oculaire. Frank, toujours disposé à être en désaccord avec Rosenberg, le reconnut, Mais il s'éleva contre l'assertion suivant laquelle le peuple allemand avait dû savoir ces choses-là. Plus tard, Fritsch, parlant du contre-interrogatoire du docteur Babet, dit « Vous auriez dû voir le spectacle qu'offrait un avocat de la défense aidant l'accusation. Quelle question stupide ! Discuter pour savoir si c'était 700 000 ou 350 000 Français qui avaient été assassinés ?» Elle lui a naturellement répliqué en plein visage « Je ne discuterai pas avec la Gestapo ». C'était là la bonne réponse, une réponse à droite, après tout elle est journaliste, elle s'y entend en la matière. Plus tard, Göring dit à son avocat dans le box de demander ce que le témoin avait enduré personnellement. « Avez-vous remarqué, dit-il, tous ces témoins des camps de concentration étaient des personnes de confiance et non des gens qui souffraient eux-mêmes des atrocités ?»« Évidemment, dit l'avocat, aucun de ceux qui ont souffert ne sont encore vivants pour en témoigner. » Göring changea de sujet.
Cela a été un des moments les plus marquants du procès. Sans dramatisation, mais très impressionnant. Et ça pour deux raisons.
Peter Calvo-Corresi.
La première, c'est qu'il s'agissait d'un témoin oculaire. Le procureur français, je ne me rappelle plus si c'était de Menton ou Dubose, enfin peu importe, a dû présenter son dossier en s'appuyant sur des témoignages vivants et non sur des pièces écrites, comme beaucoup l'avaient fait avant lui. Des gens de chair et d'os qui avaient vu et souffert et qui ont raconté avec une évidente honnêteté ce qui s'était passé. Et c'était quelque chose de nouveau, de rafraîchissant et de très éclairant. Et deuxièmement, il n'y avait aucun doute sur le fait que ce qu'elle disait était vrai. Toutes ces horreurs, pas seulement les travaux forcés ou les assassinats, mais aussi les expériences médicales, qui étaient quelque chose de relativement nouveau. Les gens savaient à quoi s'en tenir sur Ravensbrück, mais on ignorait les expériences médicales, et cela faisait froid dans le dos, et cela a eu un impact tout à fait considérable.
Et l'attitude des Allemands ?
Ils étaient atterrés aussi, je pense, parce que c'était incontournable, c'était devant eux. Il y a eu un contre-interrogatoire par le docteur Marx, je crois. Et cela a été une très grave erreur, ils auraient mieux fait de ne rien dire. Car il n'y avait rien qu'il puisse dire. Il a commencé à l'interroger, mais ça n'a rien donné, il s'est rassis.
Ça me paraît quand même un progrès que cette notion de guerre d'agression soit condamnée, même si je trouve que ça n'a pas été aussi loin que ça aurait dû aller. Parce que ce qui me paraît l'essentiel, c'est quand même l'avenir, c'est-à-dire d'essayer de sauver la paix. C'est pour ça que je considère que le fait que des futurs criminels de guerre puissent savoir qu'ils seront jugés comme tels me paraît un progrès de l'humanité. De même, la notion de crime contre l'humanité, c'est une notion nouvelle. Les nazis n'ont pas inventé la torture, les massacres, même l'extermination de peuples. Ça s'est fait à travers l'histoire, mais ça s'est fait avec bonne conscience. Le fait que ce soit maintenant considéré que les chambres à gaz, que le mot génocide existe et soit employé, ça me paraît un progrès, même si les droits de l'homme ne sont pas encore respectés partout comme ils le devraient, la notion même de Déclaration universelle des droits de l'homme, la notion de crime contre l'humanité, me semble un progrès et un point d'appui pour faire avancer la conscience des hommes et qu'ils deviennent inconcevable qu'on puisse régler des problèmes en tuant des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, comme ça s'est passé.
On n'en sort jamais. Je vais vous dire, c'est récemment que j'ai pensé à ça. On n'en sort jamais. On en sort, alors dans un premier temps, on en sort, c'est-à-dire qu'on fait un clivage.
Rosine Crémieux.
Il faut repartir. Moi, j'ai eu cette bourse d'aide alliée à la résistance française. Mes collègues sont partis en Indochine et j'ai mis très très longtemps à réaliser que ce n'était pas par hasard que les uns avaient été là. Et c'est qu'il fallait tirer un trait. Alors, ce qui m'a aussi également frappé, c'est qu'il y avait une réadaptation très difficile. Une fois la joie passée, parce que la joie est intense de retrouver ses parents, de retrouver ses frères qu'on croyait, qui étaient dans les forces françaises libres et qu'on croyait disparus. Et une fois la joie passée, il fallait se réadapter. Et non seulement nous nous réadapter, mais que nos parents et notre entourage se réadaptent, car on était des ovnis pour eux. J'étais une jeune adulte, j'avais 20 ans, et j'avais à la fois besoin d'être cajolée, ils avaient envie de me cajoler, mais on avait réciproquement une culpabilité latente. Hein. Eux, ne pas m'avoir protégée, et moi, de leur avoir causé des douleurs épouvantables, puisque mon père est allé dans un charnier voir si j'étais, parce qu'on devait être fusillé. Alors il est parti avec un drap blanc, c'est une de mes camarades, une de mes amies qui m'a raconté ça, qu'elle avait vu mon père partir avec un drap blanc pour ramasser mes éventuels morceaux. Alors, je ne savais pas ce détail-là, je l'ai appris très récemment. Donc la relation n'était pas facile. Et ils ont eu l'intelligence de m'envoyer à Grenoble où mon frère avait repris ses études. Et de me forcer à accepter une bourse de l'aide alliée à la résistance française. Je ne voulais pas partir. Et alors là, dans ce qui est très intéressant, c'est ce que je n'acceptais pas de mes parents, de me faire cajoler, pouponner, comme on dit. Je l'ai accepté sans difficulté de Madeleine Millot, la femme de Darius Millot, parce que j'étais à la maison française en Californie. Et vraiment, là, je pouvais l'accepter parce que c'était à distance et à distance de notre expérience. C'est pour ça que je pense qu'il y a une ligne de démarcation. On peut reprendre une vie normale, si je puis dire, mais ce que je ne savais pas et ce que j'ai découvert, c'est que j'avais un clivage. Et ça, je l'ai découvert il y a 2 ans. Et je savais que je racontais des choses et je disais, mais ma parole est désincarnée. Je la racontais comme si c'était quelqu'un d'autre. Mais il y a 2 ans, quand ces Allemands sont venus me voir à Belle-Île, alors il y avait toute la famille, dont un petit enfant de 10 ans. Moi, j'étais très inquiète, parce que je me disais, mais je n'ai jamais arrivé à les reconnaître. Ils vont descendre du bateau. Comment vais-je les reconnaître? Et puis, le petit garçon est arrivé et m'a dit, mais c'est toi, Rosine. Et alors là, tout s'est effondré. Et vraiment, quand j'en parle, je suis encore très profondément émue, vous voyez, parce que tout à coup, tout est revenu. Et alors, je me suis rendu compte que j'avais effectivement tiré un trait pour pouvoir vivre. Et je ne suis pas la seule, parce que quand j'ai parlé de ça à 2 ou 3 camarades, ils ont eu toutes la même réaction. C'est-à-dire qu'on n'avait pas négocié notre retour à la vie.
Le procès de Nuremberg. Archives mémoriales de la Shoah. Texte lu par Jean-Paul Borde. Une série de Dominique Missica avec Vincent Artuso. Équipe de réalisation Pierrette Perronneau, Michel Mestre. Vous pouvez consulter sur franceculture.com le site Le procès de Nuremberg pour les livres, les films et les sources utilisées.
Demain, dans Création On Air à 23h, Les pianos debout par Laurence Courtois, Zoé Mémy et Annabelle Brouard. Il est l'heure des nuits de France Culture avec Philippe Garbi.